Mathilde Serrel qui poursuit, bonjour à tous les trois, qui poursuit sur les GAFA, donc ces grandes entreprises Internet, qui ont une influence, selon vous, sur nos choix culturels, avec cette question, Mathilde, comment sortir de la bulle à filtre ?
La journée commence, Guillaume, et que ce soit sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, c'est désormais acquis. Les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, mais aussi les ASNS, Amazon, Spotify, Netflix et Steam, vont jouer un rôle déterminant dans votre circulation, votre consommation au sein de l'offre culturelle. Pardon pour le postulat acronymique de départ qui, j'en conviens, donne un peu mal à la tête, mais de fait, ce sont les nouveaux acteurs de nos choix culturels et individuels, voire collectifs. Passons rapidement par la case exemple. Vous recherchez le nouveau livre d'Elena Ferrante à paraître en janvier, L'enfant perdu. Amazon vous proposera aussi Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et vous ne risquez pas de sortir de votre zone de confiance littéraire avec la suggestion d'un ouvrage de Virginia Woolf, par exemple. Procédé affinitaire qui s'applique à la musique, au film, au jeu, etc. Ce qui a tendance à vous enfermer dans ce qu'on appelle une bulle à filtre. Car les fameux algorithmes, ces programmes associant formules mathématiques et codes informatiques, se perfectionnent et maîtrisent de mieux en mieux ce qu'on appelle la donnée personnelle culturelle. Issue de la récolte d'un volume astronomique de données en ligne, reflet de vos goûts, vos préoccupations, vos envies. En plus, ces systèmes, combinés aux fonctions de learning, apprennent de vos choix et vous suivent dans vos évolutions. Récemment, des ingénieurs de la plateforme vidéo Netflix expliquaient comment ils s'y prenaient pour adapter les petites vignettes d'illustration des séries, documentaires et films qu'ils proposent en fonction de l'utilisateur. Ainsi, comme le montrait par exemple le site de la revue Uzbek Erika, à un amateur de comédie, on proposera une vignette amusante du film Good Will Hunting, à un amateur de romance, une vignette qui met l'accent sur l'histoire d'amour. Et pour être bien sûr que vous allez jusqu'au bout du clic, l'équipe technique a développé ce qu'ils appellent des contextual bandits, capables d'apprendre en temps réel et en ligne au fil de la navigation de l'abonné et d'ajuster les illustrations proposées. En plus de la page d'accueil qui personnalise l'ordre et la dénomination des types de contenus. Bref, quand vous croyez faire votre propre sélection sur Netflix, vous êtes dans une forme d'illusion du choix et du hasard, vous êtes en train de vous faire embarquer par votre double numérique. Or, comme l'a montré le philosophe Bernard Stiegler, la représentation que se fait un individu de lui-même est construite sur une somme de contradictions et d'idéaux. Nous avons la possibilité de changer en permanence et ces algorithmes, le problème, c'est qu'ils détruisent notre singularité en créant un double de nous-mêmes qui n'est qu'une image statistique.
Question inspirée par Dostoïevski, comment se débarrasser de l'influence du double ?
On peut lui tirer dessus, il y a d'autres solutions. Il y a plusieurs pistes, hein, et je pourrais pas les citer toutes. Par exemple, introduire de l'humain dans les propositions éditoriales de ces plateformes, mais aussi traverser le miroir de ces suggestions, comme le suggère justement Dominique Cardon, auteur du livre « À quoi rêvent les algorithmes ?». Il s'agirait d'améliorer la compréhension par tous des mécanismes informatiques et la capacité à repasser en manuel, soulever le capot, comme le disait aussi le patron du site Wired. Alors, on a aussi des propositions innovantes comme Darius Kazemi, qui a conçu un robot, le Random Shopper, qui fait une sélection au hasard pour un budget donné sur Amazon, pour recréer de l'aléatoire. L'objectif, déformater ses attentes, surprendre son cerveau. Les experts sont nombreux à interroger ces dérives du choix. Olivier Schramek, un patron du CSA, qui parlait en plus de l'enfermement dans ses propres goûts au détriment de la découverte, d'une tentation avec les algorithmes, d'une manipulation destinée à favoriser les œuvres produites par les éditeurs. Il y aurait donc aussi une menace de standardisation de la création. Et le politique dans tout ça ? Quel levier d'action ? Pour pallier à la fermeture de nos opinions et de nos goûts à notre insu, des idées émergent, obliger la loyauté des GAFA à travers un système de notes sur la diversité de l'offre, mais aussi permettre aux sites de prescriptions culturelles qui ne fonctionnent pas sur les algorithmes de se maintenir. Et pour ça, la neutralité du net a un rôle à jouer. Cela ne peut pas me coûter plus cher d'avoir accès à l'intégralité des contenus numériques. Une question pour Sébastien Soriano. J'écoutais aussi hier Axel Lemaire, qui est l'ancienne chargée du numérique et d'innovation sur France Culture, dans l'excellente émission d'Hervé Gardette, Du grain à moudre. Elle disait, finalement, il faut que la bibliothèque reste ouverte et que je ne paye pas plus cher pour choisir tel ou tel livre. C'est ça qui est en jeu avec ce qui va se passer aux États-Unis aujourd'hui, avec la neutralité du net. Oui, la diversité culturelle.
Oui, on va vers une mise en silo du numérique, hein, vers une acceptation du fait qu'il y a des grands groupes privés qui vont organiser des internets, des numériques différents, des numériques qui soient avec des partenariats commerciaux, des numériques qui soient sur mesure et qui potentiellement, effectivement, vont vous enfermer dans des bulles. Moi, je me permets une petite proposition sur ce sujet. Je lance une idée en l'air. Vous savez, quand vous avez ces bracelets électroniques qui vous disent à la fin de la journée ou le matin quand vous vous réveillez, monsieur, vous avez fait 5000 pas aujourd'hui, c'est quand même pas beaucoup, vous pourriez en faire 8000, ce serait bien pour votre santé. Eh bien, pourquoi pas avoir, évidemment, de manière volontaire, un petit compte-rendu de ce que vous avez fait sur Internet ou dans votre télévision ou dans vos choix culturels qui vous dit, écoutez, monsieur, bon, quand même, vous écoutez tout le temps un petit peu la même chose, vous n'êtes pas assez curieux, vous pourriez aller vers des choses un peu plus ouvertes, par exemple, écouter France Culture ou d'autres choses.
Mais ça, beaucoup de gens le font, Sébastien.
Benjamin Bayard. Sur les algorithmes.
Sur les algorithmes, oui, c'est toujours pratique de savoir soulever le capot, mais ça ne peut pas être à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'en vrai, techniquement, c'est compliqué. Effectivement, quand on est informaticien de métier, qu'on a quelques années d'ancienneté, on comprend un peu ce qui se passe, mais on ne peut pas demander à tout le monde de savoir ça.
Alors, ce serait quoi vos pistes, par exemple ?
En revanche, on peut demander, par exemple, à ce qu'il soit interdit à ces plateformes de stocker des données sur leurs abonnés. Mettons que je sois abonné chez Netflix, ce que je ne suis pas, ils ont le droit de stocker que je suis abonné, depuis quand, combien j'ai payé et quel est mon mode de paiement. Et puis, c'est tout. Il devrait leur être interdit d'avoir l'historique de ce que j'ai regardé. Il devrait leur être interdit d'avoir l'historique de ce que j'ai recherché.